Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens! Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode.
Salut Aymeric.
Salut Bart, tu vas bien?
Bah écoute, tu m'as un peu ratatiné là. qu'on se dise honnêtement, je suis venu sur tes terres de CrossFit.
Ouais, tu t'en es très très bien sorti, bravo.
Ouais, bah écoute, en plus je suis, comme tu le sais, je suis en réathlétisation, on va dire entre guillemets. Et je t'avais dit que j'avais envie de faire un épisode en immersion. Je savais que tu faisais beaucoup de CrossFit, ouais. Donc je suis revenu à mes amours m'entraîner avec toi.
Parfait.
Et merci pour cette immersion. Donc là, tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est?
Bah là, on est dans ma box de CrossFit, donc là où je m'entraîne, où je tourne mes vidéos, où je donne des formations. Je ne dors pas encore là, mais ça va peut-être pas tarder.
Il y a des apparts en vente juste devant. Donc, si t'habites là dans pas longtemps, je serais pas étonné. Mais écoute, ouais, très cool. Donc, on vient de se faire une bonne petite séance,
ouais.
Avant ce podcast. Donc, c'est Je crois que c'est la première fois que vraiment je m'entraîne et que j'arrive un petit peu en manque d'insuline avant un podcast. Mais
si
bon.
Tu veux t'allonger, dormir un peu, je prendrai le relais si tu veux pour l'épisode.
Voilà, je suis entre deux bonnes mains avec un professionnel de santé, donc si jamais il m'arrive un truc, j'ai pas de souci à me faire. Merci beaucoup de cette expérience et je suis ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi. J'ai pas eu beaucoup de professionnels de santé ou même de gros créateurs de contenu sur Extraterrien, parce que ma grande passion c'est les athlètes.
Ouais.
Mais toi, ça fait très longtemps que je ton contenu.
Ouais.
Très longtemps, j'abuse peut-être un peu, mais ça va faire plus d'un an, parce que je me souviens, tu devais avoir quelque chose comme 30 000 followers sur Instagram, tu vois,
okay.
Quelque
ouais,
chose.
Ouais.
Donc aujourd'hui, ça a pas mal grossi.
Ouais, ça a bien changé depuis. Ouais.
Franchement, chapeau, parce
merci
que j'ai
beaucoup
vu l'évolution, c'est hyper costaud. Et donc on va parler un peu de tout ça, on va parler effectivement de kiné, d'ostéo, on va parler un peu de PNL, on va parler un peu de crossfit ici, où, évidemment, des athlètes de manière générale. Mais avant tout ça, il y a une question traditionnelle ici, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport?
Ok. Alors, je sais pas si c'est le premier, mais il fait partie des tout premiers. Moi, j'ai commencé mon premier sport, ça a été le foot.
Okay.
Et un des premiers souvenirs que j'ai, c'est de volontairement quitter le terrain pour laisser rentrer un joueur meilleur que moi parce qu'on était en train de perdre. Et en fait, ce souvenir me fait juste dire que le foot, c'était pas fait pour moi, parce que j'ai préféré sortir du terrain pour laisser jouer les copains en me disant « je suis vraiment nul, je suis en train de faire perdre l'équipe ».
Mais c'est un sacré esprit d'équipe quand même. Hein.
Ouais, ou alors je m'étais rendu compte que j'étais vraiment pas fait pour ça.
Qu'est-ce qui te fait dire que t'étais pas fait pour ça?
Bah, déjà aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un pied carré et que je voyais que c'est peut-être plus mon physique un peu costaud déjà à l'époque qui me servait que ma spécialité technique ballon au pied, on va dire.
Ok. Et t'as fait d'autres sports un peu jeune?
J'ai dû faire un peu comme tous les garçons un peu jeunes du foot un an ou deux. Ça me plaisait pas plus que ça. J'ai un peu essayé des trucs. J'ai essayé un peu de judo, un peu de basket, un peu d'escrime, et je suis tombé dans le rugby ouais. Et là, donc ça a été vraiment mon premier vrai sport, et du coup là mon premier vrai souvenir de ce sport là où j'en ai fait quand même 10 ans, ça a été de franchir la ligne d'essai et de pas savoir qu'il fallait écraser le ballon au sol et de le jeter en mode football américain. Tout le monde me regardait bizarrement, donc j'y suis tombé complètement par hasard parce que à l'école il y avait un copain qui faisait ce sport là et j'ai accroché, donc j'ai fait 10 ans comme ça.
Tu saurais dire ce qui t'a plu dans le rugby?
Le côté physique.
Ouais.
Tu vois, le côté un peu contact. Alors j'étais tout petit, hein, j'étais en poussin à l'époque, mais un peu de contact, un peu d'intensité, une grosse cohésion d'équipe, etc. Enfin, ouais. C'est ce souvenir. Et plus de mes réussites sportives au rugby, le souvenir que j'en ai de ces 10 premières années, c'est l'équipe, les déplacements, les trajets en bus, etc. Tu vois, c'est ce côté-là que j'avais adoré.
Ouais, c'est au-delà du sport et sur le terrain, il y a tout ce qui se passe en dehors.
Ouais, la cohésion. Ouais. Et la troisième mi-temps, même si quand t'es en poussin et en benjamin, elle est pas monstrueuse, mais elle reste agréable. Le petit chocolat chaud, cookie est toujours cool.
Ouais, bah c'est clair. Bah, ça me rappelle aussi quelques souvenirs, et puis ça forge aussi le caractère, tu vois. De,
ouais.
Je trouve beaucoup l'humilité aussi. Tu vois, dans le rugby, tu peux effectivement être un gros gaillard et puis être mis par terre par un petit.
Un plus petit que toi qui s'est bien plaqué, qui te prend bien au genou. Et...
Exactement. Ouais. Et puis, t'es obligé d'être de donner le meilleur de toi en fait. Dans ce sport, tu peux pas avoir la tête ailleurs. Quoi.
Mais j'aime beaucoup ce côté sport de combat, mais en équipe.
Ouais.
Tu vois, qui fait que tout le monde se donne, et si toi tu vas pas un peu te mettre dans le rouge, t'en as un qui vient de prendre une énorme cartouche qui s'est fait mal même s'il est pas blessé, et du coup si toi derrière tu te donnes pas les moyens de récupérer le ballon ou d'aller te battre au sol et compagnie, tu l'as un peu laissé tout seul quoi. Donc en effet, il y a une grosse cohésion que je trouve en tout cas un peu plus que dans le football, où même si c'est un sport d'équipe, t'as moins ce côté la douleur, la difficulté, etc., le combat, l'engagement.
Ok, ouais. Tu jouais quel poste toi?
Mon physique a beaucoup évolué. J'ai commencé ailier, je suis passé centre et j'ai fini avant. Donc tu vois, le mec qui était très rapide au début et qui a un peu pris de poids et un peu de gabarit et qui a fini, j'étais seconde ligne à la fin.
Ok, d'accord.
J'étais quand même assez grand. Donc,
je vois le truc. Et t'étais quel type de personnalité sur le terrain? Est-ce que t'étais plutôt le leader qui tirait tout le monde vers le haut, ou peut-être le joueur un peu plus discret et qui applique la stratégie? Quel rôle toi t'avais dans ce collectif?
J'avais, on va dire, l'état d'esprit peut-être du leader, mais j'avais pas le niveau physique du meilleur joueur.
Ouais.
Tu vois, j'étais clairement pas le meilleur de mon équipe et je l'ai jamais été dans le rugby. J'étais un joueur lambda, tu vois. J'étais de temps en temps en équipe 1, de temps en temps en équipe 2, de temps en temps titulaire, de temps en temps je commençais remplaçant, tu vois. Donc pas l'athlète dont tout le monde se souvient, mais par contre sur la cohésion et compagnie,
ouais.
Assez plus peut-être là-dessus.
Et peut-être si on devait faire un petit parallèle entre ton métier aujourd'hui et ton activité, c'est quand même très tourné vers les autres, tu vois. Quand on est kiné, ostéo, on sait qu'on a envie d'aider, je pense. Et je pense que c'est une mission, tu vois, au-delà de au-delà d'être d'un métier. Est-ce que toi, en regardant dans ton enfance et en regardant le petit Aymeric avant, tu peux te dire tiens, il y avait des signes avant-coureurs entre guillemets de quelqu'un qui a envie d'être vers les autres dans l'accompagnement, tu vois.
Alors ça aurait fait un très très beau storytelling disant que depuis tout petit je veux aider la veuve et l'orphelin, mais non, pas spécialement. Et en fait, quand j'ai commencé kiné, je l'ai pas spécialement fait dans le but de me dire je vais soigner les autres. J'ai fait kiné sans trop savoir ce qu'était kiné. Je voulais du médical parce que ça m'intéressait. Je voulais quand même le côté sociable parce que voilà, j'ai toujours été très sociable, aimé être en contact avec les gens. Je voulais pas faire 10 ans d'études non plus. J'aimais le côté sportif. Et mon père, qui aujourd'hui bosse dans la finance, qui n'a jamais fini ses études, a quand même fait des études de kiné. Et donc il m'avait dit oui, bah lui il a fait jusqu'à la dernière année et après il est parti dans la finance. Mais il avait apprécier ces études de kiné, donc tous ces éléments-là ont fait que je suis parti en école de kiné.
Ok.
Et donc c'est le côté sociable totalement. Après, le côté vouloir soutenir les autres, il est venu pendant mes études de kiné. Et puis derrière, d'avoir le retour des gens et compagnie, ça c'est ça. Clairement, dans mon métier, ça n'a pas de prix.
Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Je pense qu'il faut aimer les autres pour faire ce type de métier-là. Et quand pour qu'il y ait du plaisir, quoi. Tu vois, donc trop cool. Et t'as eu des grosses blessures au rugby?
Ouais, beaucoup, beaucoup. Ma carrière, on va dire sportive, est parsemée de blessures. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté le rugby au bout du. J'ai dû faire des pauses quand j'ai déménagé. J'ai fait un peu de water-polo. Après, j'ai repris le rugby à Paris quand j'étais étudiant. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en tant que kiné, donc je faisais encore un peu de rugby. Et il y a un moment où, en match, je me luxe l'épaule le dimanche. Le lundi, j'ai des patients au cabinet. Premier patient à 7h. Ben, je peux pas lever le bras. C'était, je me rappelle très bien, une cervicalgie. Je lui tenais la tête d'une main. Je me suis dit non, bah aujourd'hui, autant j'étais étudiant, je me blessais, c'est rigolo, tu vas pas en stage. Autant quand j'ai vraiment commencé mon métier, où tout ce qui est couverture sociale en tant que profession libérale, bah c'est délicat et compagnie. Je me suis dit bon, aujourd'hui, je peux plus me permettre de me blesser. Ouais. Donc c'est là ça qui m'a fait arrêter le rugby. Mais je me suis fait, pour te faire très rapidement, les deux chevilles, les deux un genou. Je me suis fait une hernie discale. Je me suis fait les deux épaules. Je me suis fait opérer de l'épaule. Je me suis fait les clavicules, les poignets. Enfin, je me suis fait beaucoup beaucoup de blessures.
C'est des choses. Enfin, c'est des, comment dire. C'est des blessures qui peuvent donner envie, tu vois, justement d'apprendre le mécanisme du corps.
Alors tout à fait. À soigner, j'ai des collègues kinés ou j'ai des étudiants kinés qui viennent me parler qui en effet ont été blessés, ont fait de la rééducation et ça leur a donné goût à faire ça justement, à faire ce métier de kiné, à aider les gens à passer d'une étape A où on peut plus faire grand chose à une étape D finale où ils peuvent à nouveau tout refaire. Moi, ça va pas être le cas parce que vu que j'étais assez jeune, c'était dans mon univers, il n'y avait pas beaucoup de kinés, on n'y allait pas. Donc en fait, c'est des blessures qui spontanément récupèrent bien. Une entorse de cheville, tout le monde s'est déjà fait une entorse de cheville. Mis à part quand elle est très grave, spontanément, en te mettant au repos quelques semaines, elle finit par récupérer. Alors ça peut aussi expliquer pourquoi j'en ai fait autant, parce que je les ai jamais traitées quand j'étais plus jeune. Mais la vraiment première fois où j'ai fait de la rééducation, bah, j'étais déjà kiné en fait.
Ok.
Ouais. Sinon, bah voilà, je me suis luxé l'épaule quand j'étais plus petit. Bah en fait, tu restes coude au corps pendant 3 à 6 semaines. Et puis bah voilà, quand t'as 10-15 ans, tu retournes jouer, tu fais une balle au mur à la cour de récré. En fait, la vie d'un jeune qui fait plein de sport est une rééducation en soi.
Ouais.
Qui n'est pas parfaite et qui fait qu'il y a beaucoup plus de récidives que si tu fais une vraie rééducation poussée.
Bien sûr.
Mais ça, à l'époque, bah mes parents n'étaient pas sensibles à ça, les médecins généralistes non plus. Donc en fait, ils me disaient non, bah il est jeune, il va récupérer. Après, ça laisse des petites séquelles, ce qui peut expliquer pourquoi j'ai fait des récidives. Mais en fait, c'est vrai que ouais, j'ai vraiment connu le métier de kiné à travers mes études. Puis maintenant, je prône le côté, bah ouais, quand vous vous blessez, même si vous pensez que ça va bien se remettre tout seul, c'est le cas, allez faire quand même un peu de kiné, que ce soit 3-4 séances. Tu vois, t'as pas toujours besoin de faire 30 séances, mais des fois, c'est quand même important.
Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ces tips. Tu vois, comme toi, je suis papa et c'est vrai que la vision de un peu qu'on a des enfants qui sont un peu des morceaux de chewing-gum,
ouais,
tu vois,
de
caoutchouc et qui se remettent toujours en forme. Ça me parle beaucoup, en tout cas, cette image. Peut-être aussi ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que quand on est ado ou enfant, on s'écoute un peu moins, on écoute moins son corps et donc on va se réentraîner très très vite et tout le temps. Et tu dis que ouais, ça laisse des séquelles. Toi, tu en as laissé quelques-unes avec.
Par exemple, si on prend mon épaule où j'ai été opéré, je me la suis luxé 3 fois.
Ouais,
là, avant de me faire opérer. Globalement, on sait que si tu fais une bonne rééducation après ton premier épisode, le risque de récidive est quand même moindre que si juste tu fais un peu d'immobilisation. Déjà, l'immobilisation, elle doit être plutôt bien réalisée.
Ouais.
Si tu te contentes juste de te fier à ta douleur, tu vas garder une petite laxité, une petite instabilité au niveau de ton épaule. Et si derrière, tu fais pas un peu de renforcement musculaire, il y a un risque de récidive. Mes chevilles, c'est pareil.
Ouais.
Et ça a pas loupé. Je me suis fait beaucoup d'entorses de cheville au rugby. Et depuis que je fais plus de rugby, je me fais plus d'entorses de cheville.
Okay.
Et tu vois, tout à l'heure, on s'entraînait, je sais pas si t'as vu, je me suis à moitié cassé la figure en descendant d'une box. Clairement, à l'époque, je me serais sûrement refait l'entorse, tu vois, en faisant ça. Mais là, aujourd'hui, ça tient le coup.
Ok. Mais hyper intéressant, en tout cas, de faire un petit peu ces passerelles entre en plus jeune et, ouais. Et maintenant, t'as ta vision de kiné. Quid un peu, vu que c'est mon cas, tu vois, quid des sports qui te déséquilibrent beaucoup. Comme je te disais, j'ai fait 12 ans de tennis, avec plusieurs heures d'entraînement par jour.
Ouais.
Donc ça te, comme t'imagines, hein, ça, il y a un bras qui se muscle énormément.
Bon, on voit bien Nadal, hein, il a deux bras différents. Hein.
Ouais, exactement. Et lui, il a fait énormément de musculation pour compenser. Et encore, tu vois, on voit pas, enfin, il y a que la partie physique et visible du volume, mais c'est tes muscles profonds aussi qui très proches des muscles qui sont encore plus congestionnés, tu vois, ou qui travaillent plus. Est-ce que à quel point ça, moi j'ai l'impression que ça m'a beaucoup transformé.
Ouais.
Tu vois que ça m'a déséquilibré. J'ai une épaule un peu plus haute que l'autre. Bon, je suis peut-être pas symétrique de base et aucun être humain n'est parfaitement symétrique. Mais à quel point toi, de ton expérience et pour travailler avec beaucoup d'athlètes, ça peut transformer une morphologie, tu vois, d'avoir un sport qui te déséquilibre.
Ouais, alors en effet,
on peut les lister d'ailleurs.
En fait, c'est très simple. Tous les sports asymétriques, donc par exemple tous les sports de raquettes, tous les sports de lancer, tu vois, tous ces sports-là sont des sports asymétriques. Là où des sports comme la course à pied, comme le crossfit, la muscu sont des sports symétriques.
Ouais.
Alors ce qui est intéressant, ça va être de dissocier là-dessus, tu vois, ce que nous dit la littérature et ce que nous on peut observer sur le terrain.
Ouais.
Globalement, un sport asymétrique, il n'y a pas toujours un énorme intérêt à aller vouloir corriger cette asymétrie.
Ouais.
Parce que c'est ton sport qui va te demander ça. Tu vois, aujourd'hui, si tu fais du tennis et que t'es droitier, ça sert à rien d'avoir 50% de force dans tes deux épaules, parce que de toute façon, t'en as une qui va en avoir plus besoin. Et c'est toujours se dire, aujourd'hui, un sportif, il a un nombre d'heures d'entraînement disponible.
Ouais.
Qu'est-ce qui va être le plus pertinent?
Ouais.
Tu vois, est-ce que chez un tennisman, s'il a 10 heures pour s'entraîner en tennis et peut-être 2 heures pour faire de la prévention, sur ces 2 heures-là, qu'est-ce que je vais faire? Et je pourrais pas tout faire.
Ouais.
Tu vois, et de venir juste faire que du renforcement unilatéral de son bras faible est peut-être moins intéressant que de venir faire du travail spécifique de son bras fort, qui est déjà fort, mais qui va avoir des besoins de force, de vitesse, d'amplitude, etc., etc.
Okay.
Et par contre, là où moi je le verrais un peu plus, c'est sur les composantes au niveau du tronc. Tu vois, un sport asymétrique comme le tennis, tu fais très souvent la même rotation.
Ouais.
Exactement. Et donc là, tu vas très souvent engager les mêmes muscles sur une structure qui est unique. Tu vois, les bras, t'en as deux, un à gauche, un à droite. Donc tu peux relativement réussir à garder ça. Le tronc, c'est une structure centrale.
Ouais.
Donc à partir du moment où tu fais toujours les mêmes rotations, ça va être toujours les mêmes obliques d'un côté qui vont travailler et toujours les autres qui vont moins travailler.
Ouais.
Et donc là, le déséquilibre, mais ça, c'est plus mon expérience personnelle qui va parler, j'aurais tendance à essayer un peu plus de la corriger.
Ok, ouais.
Là où j'aurais tendance à des fois un peu plus la laisser. Après, par exemple, tu prends les footballeurs au niveau du membre inférieur.
Ouais.
Il n'y a pas plus de rupture, par exemple, du ligament croisé sur leurs jambes fortes que sur leurs jambes faibles.
Ok, d'accord.
Tu vois. Mais je sais qu'ils vont travailler les deux, mais ils ont quand même tout intérêt à garder fortes leurs jambes fortes.
Ouais.
Tu vois, et de passer du temps comme ça. Mais un footballeur ne va pas se dire j'ai besoin d'avoir une cuisse droite forte, donc je vais faire du renfo que à droite. C'est en fait les spécificités de son sport qui vont l'entraîner.
Bien sûr.
Tu vois, c'est toujours assez difficile et dans un monde parfait, on ferait tout, mais à trop en faire, on réduit aussi la capacité de récupération. Donc ça a rien de donner 50 heures d'entraînement à un athlète, il va pas récupérer. Et puis derrière, il y a des priorités. Et des fois, juste corriger un léger déséquilibre gauche-droite est pas toujours le plus pertinent non plus en prévention de blessures.
Ok, je vois très bien. C'est hyper intéressant cette approche. Moi, je vois qu'en tout cas, en l'ado que j'ai, tu vois, mon dos des fois je me tiens plus très droit, tu vois, et bon, je me dis toujours que c'est parce que j'ai fait trop de tennis, mais peut-être que c'est pas ça, mais ça, moi j'ai l'impression que ça façonne quand même beaucoup le corps, quoi, tu
vois. Totalement. C'est sûr que ça façonne le corps, et un très bon exemple, c'est que tout ce qu'on a fait plus, le corps a une mémoire, donc tout ce que tu vas faire plus jeune, tu vas en tirer des bénéfices plus âgés. Déjà, ouais. Par exemple, un tissu qu'on entend des fois, le disque intervertébral, donc au niveau du dos. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai une hernie, etc., c'est ce tissu très mou entre les vertèbres. Lui, ce qu'on sait, c'est pendant l'adolescence, c'est les contraintes qu'on va mettre dessus pendant l'adolescence qui vont faire sa qualité pendant toute notre vie.
Ouais.
Donc tu vois là, c'est le meilleur exemple qui est que si aujourd'hui, quand je suis plus jeune, je fais ou je ne fais pas de sport, ça va complètement définir derrière l'évolution de mon dos sur les 40 prochaines années.
Ouais.
Après, le corps a une mémoire, ce qui fait que si tu as fait beaucoup de sport plus jeune, tu vas garder cette qualité même si tu fais un arrêt. Même si tu fais un arrêt de 20 ans, ce sera toujours plus facile de reprendre le sport à 40 ans que de commencer le sport à 40 ans.
Ah, c'est
tu vois. Et un dernier exemple, moi, toutes mes patientes, parce que c'est quand même plutôt des femmes qui ont fait des sports de gym, de danse, plutôt de souplesse, même si elles arrêtent, même si ça fait 10, 20 ans qu'elles ont rien fait, quand je les vois au cabinet pour des douleurs X ou Y, elles ont toujours une qualité de mouvement, d'amplitude très différente de quelqu'un qui a fait que de la course à pied ou que du football.
Ouais.
Ce sont des sports qui ont plutôt tendance à en réduire. Donc tu vois, tout ça fait que oui, en effet, le sport plus jeune va totalement modeler et le physique et la qualité des tissus sur le long terme.
Ouais. Et ça me fait aussi penser, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, même si c'est peut-être un tout petit peu moins ta spécialité, qu'il y a aussi cette mémoire sur le travail cardio-respiratoire.
Tout à fait clair.
On le voit beaucoup, tu vois, sur des anciens nageurs. Moi, j'ai un copain qui a été champion de France junior, tu vois, en natte, et il a arrêté le sport pendant 10 ans. Et il s'est remis à courir sur 10 kilomètres et nous mis une pilule à tous.
Bien sûr.
Parce que il a un cardio, enfin, il a un travail, un passif de cardio-respiratoire.
En fait, en effet, on va dire que le côté pulmonaire n'est pas ma spécialité, donc je n'aurais pas t'en parler. Mais par contre, si tu parles de qu'est-ce qui fait qu'on ait une bonne capacité respiratoire, il y a plusieurs éléments. Le cœur reste un muscle. Ouais. Le diaphragme est un muscle. Et ce qui nous fait la mobilité de notre cage thoracique pour bien respirer, ce sont aussi des muscles. Donc de toute façon, tu vois, on peut extrapoler ce que je viens de dire que sur le côté musculaire, déjà, t'as raison. Et sûrement que sur le côté pulmonaire, il y a aussi d'autres effets que je ne connais pas, mais je serais vraiment pas surpris si c'était le cas.
Ok, bon bah écoute, merci pour ces précisions, c'est hyper hyper intéressant et puis je pense que ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs à comprendre. Et
tu vois, pour revenir à ce que tu dis, en tant que papa,
ouais.
Bah, je sais que moi, dans un coin de ma tête, mis à part évidemment tous les effets positifs du sport, et on sait qu'aujourd'hui les enfants, les ados sont de plus en plus sédentaires, ils ont perdu un quart de leur capacité respiratoire en quelques années et compagnie. Ça. Mais je sais que tu vois, je garde ça dans mon coin de ma tête en me disant aussi pour sa santé sur le long terme. Bon là, elle a un an et demi, je lui mets pas encore trop la pression, mais je sais que tu vois, je vais avoir envie qu'elle bouge au maximum parce que elle va avoir une fenêtre de tir d'environ 10-15 ans qui vont définir derrière ses 60 prochaines années. Donc c'est hyper important.
Ouais, clairement, je le vois. Et bah tu vois, moi je me dis aussi pour mon fils, il y a des sports que j'ai pas fait. Tu vois, jeune, peut-être l'athlé et la natation aussi.
Ouais.
Je trouve notamment la natation, tu vois, c'est sans choc.
Ouais.
C'est un sport fluide et tout de portée. Je pense que c'est hyper développant pour un enfant. Enfin,
ouais.
Moi j'en ai pas fait, donc je songe déjà aussi maintenant à lui donner des choses comme ça, quoi.
Ouais.
Et bah d'ailleurs, tips de papa, moi j'ai mis mon fils à l'escalade.
Ouais, excellent.
Là, à 2 ans et demi, et en fait il a pas du tout peur du vide.
Ouais.
Il grimpe.
C'est
et c'est hyper pour l'équilibre, la proprioception, la peur et tout, donc
ils
peuvent s'y mettre très tôt, quoi.
À cet âge-là, plus ils pourront diversifier leur sport, plus ils vont stimuler en fait différentes qualités physiques.
Ouais.
Moi, tu le sais, je suis un grand fan de CrossFit qui prône le développement de 10 grandes qualités physiques, donc c'est vrai que c'est pour ça que ça se veut un sport très complet. Mais en fait, comme tu l'as dit, l'escalade, ça va travailler le côté stabilité, le côté rapport au vide, le côté mobilité, etc. La natation, ça va développer peut-être plus un certain type de travail cardio-respiratoire, peut-être plus d'amplitude, de travail d'endurance des muscles du dos. Le travail de force n'est pas interdit chez les enfants, au contraire, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est même plutôt bon, si c'est évidemment adapté. Chaque sport va entraîner des avantages chez un enfant, et le but, au contraire, c'est plutôt d'éviter l'hyper spécialisation,
ouais,
et plutôt de les faire toucher à tout. Après, en tant que parent, c'est pas toujours les mêmes contraintes de planning pour les amener à 14 sports différents dans la même année, mais pour le développement, ouais, à cet âge-là, il faut qu'ils fassent de tout. Enfin,
ouais,
je sais pas comment t'étais toi plus jeune, mais moi, je me rappelle quand j'étais minot, à cour de la clé, tu tournes dans tous les sens, tu grimpes, tu descends, enfin, tu vois, tu fais tout.
Ouais, mais clairement, ouais, je le suis toujours un peu maintenant, mais tu vois, j'étais un peu le gamin, dès qu'il y avait un nouveau sport à tester,
ouais,
il fallait que j'essaye, quoi. Donc, c'était du gros bonheur. Bon, petit retour en arrière, petit flashback pour revenir, mais tu vois, j'aime bien suivre un peu ce fil chronologique et digresser par moment. T'arrives dans la kiné du coup un peu par hasard.
Ouais. Enfin, j'ai quand même bossé un peu, mais oui.
excuse-moi, je voulais pas du tout. C'était pas du tout réducteur, mais je le. Comme t'as commencé en disant, je oui. savais pas trop où
c'est
je tombais.
C'est vraiment le cas.
Qu'est-ce qui t'a le plus plu, tu vois, dans ces études? En fait, je te pose la question parce que j'ai beaucoup de jeunes dans les filières d'excellence sportive qui nous écoutent, qui viennent écouter les grands champions pour justement aller écouter un peu leurs petits tips. Et bah tu vois, t'imagines, il y en a beaucoup qui sont en STAPS qui m'écrivent, beaucoup qui sont au lycée qui me disent ouais, est-ce que je dois aller en kiné en STAPS, est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela. Je sais pas toujours trop quoi leur répondre, mais j'essaie de leur apporter des pistes de réponse avec des invités comme toi. Et moi du coup, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de kiné ou dans les études de kiné. Et on sait que des fois les études sont très différentes du métier.
C'est une très bonne question là-dessus. Alors, moi, il y avait un an de prépa à l'époque où tu faisais des études qui avaient rien à voir, où j'ai fait genre de la radioactivité et du développement des plantes et genre de la lignée humaine. Donc c'est une prépa qui, alors aujourd'hui maintenant tout le monde passe par médecine quasiment. Ouais. Donc il y a cette première année, j'en parle pas évidemment, elle m'a pas passionné. après je suis arrivé en première année de kiné, c'est pour ça que quand tu dis un peu par hasard, c'est tout à fait vrai, parce que la première année de kiné, elle m'a pas plu tant que ça et je me suis dit, mais est-ce que je me suis pas planté? On a fait beaucoup d'anat, beaucoup de biomécanique, c'était intéressant mais c'était pas révolutionnaire, c'était beaucoup de théorie, mais c'est normal, il faut apprendre les bases.
Bien sûr.
Mais c'était voilà, qu'est-ce qu'un os, un tendon, il est où ton quadriceps, c'était très 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 détaillé, très approfondi. Et à la fin de la première année, on n'avait pas fait beaucoup de stages, j'étais là genre, je me suis peut-être planté, tu vois, sur ce métier où j'y connais rien, bah peut-être qu'il y avait une raison si j'y connaissais rien. Et arrive la deuxième année, et deuxième année, on a attaqué la pathologie.
Okay.
Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, je suis dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier de kiné, c'est mon côté enquêteur.
Ouais.
C'est-à-dire que une personne va venir me voir, elle a mal au dos. Je sais directement que moi, dans ma tête, mal de dos, je vais avoir, j'ai n'importe quoi, 15 causes possibles.
Ouais.
Je vais faire mon interrogatoire. À la fin de mon interrogatoire, je vais me dire, ok, au vu de ce qu'elle m'a raconté, ça peut pas être les 8 causes auxquelles je pensais, c'est plutôt les 5 qui vont rester.
Ouais.
Donc maintenant, j'attaque mon bilan et j'ai 5 causes en tête et je fais mes tests. Ok, celui-là est négatif, ça peut pas être ça. Celui-là est positif, ok, j'ai plus que 2 idées. Ok, là maintenant, entre ce qu'elle m'a dit, ce que je vois, comment ça réagit, je pense que aujourd'hui, son mal de dos, c'est dû à ça. Je mets en place mon traitement. Derrière, je la revois une fois, deux fois, trois fois. Ok, ça évolue bien, je me suis pas planté, ça roule bien, ça c'est comme dans les livres, c'est parfait. Des fois, ça marche pas du tout, et en fait, je me suis planté. Il y a des trucs qui font que dans la théorie j'avais raison, mais dans la pratique ça marche pas chez elle. Et tu vois, c'est ce côté enquêteur, un peu en mode de qui est-ce, tu vois, t'as une liste d'idées, et à fur et à mesure de ta première séance, bah t'élimines à fur et à mesure, et tu pars sur un suspect qui était ok, c'est pour ça qu'elle avait mal au dos, et c'est ça qui m'a le plus plu. Et c'est quand j'ai commencé à faire de la pathologie, du bilan en deuxième année de kiné, que je me suis dit ok, c'est bon.
Ok. Donc tu joues un peu à Cluedo et l'inspecteur moutarde.
Exactement.
Ok. J'aime beaucoup l'image. J'avais jamais fait le parallèle entre l'enquêteur et tu vois le médecin en général, tu vois. Ok. Hyper intéressant. Et toi du coup, à quel type peut-être de personnalité tu pourrais recommander du coup ce métier-là ou ces études-là, et à l'inverse. Là, t'as donné un super tips de pas se fier à la première année qui est très théorique. Est-ce que t'as peut-être d'autres petits tips pour des jeunes de kiné ou des gens que ça intéresse?
En fait, je vais répondre de manière très vague. Qu'est-ce qui pourrait te faire aller vers la kiné? C'est, aimer un peu quand même le médical et les sciences.
Ouais.
Aimer le contact, l'humain et l'échange. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que, au final, le métier de kiné, il est tellement large que tu peux faire kiné toute ta vie et faire 10 métiers différents.
Ouais.
Parce que, en kiné qui travaille en libéral, qui voit un peu de tout. Un kiné qui va travailler dans un club de sport, qui va ne voir que toute l'année 15 joueurs et ce seront toujours les mêmes. Un kiné qui va faire de l'urogynéco, donc plutôt de la femme enceinte ou après des opérations. Un kiné qui va faire de la pédiatrie, qui va faire de la gériatrie, qui va bosser en centre. En fait, c'est tellement vrai, tu peux faire que de l'oreille interne. Il y a tellement de spécialisations dans le métier de kiné que tu peux vraiment faire de tout, tu vois. Donc c'est très très vague et c'est ça qui est hyper enrichissant. Moi par exemple, dans ma profession, j'ai décidé de me spécialiser, on va parler plutôt ce qu'on appelle de la rhumato et de la traumato, le musculo-squelettique.
Ouais.
Ça va être monsieur et madame tout le monde qui ont des douleurs, pour faire très simple.
Okay.
Tu vois, mais aujourd'hui quelqu'un qui a fait un AVC, qui est soit hémiplégique soit autre chose, une sclérose en plaque, toutes ces maladies neurologiques, je les prends pas au cabinet. Tout ce qui est en rapport avec les enfants, je les prends pas au cabinet, même si aujourd'hui je regrette depuis que je suis papa de pas avoir un peu mieux étudié la pédiatrie. Tu vois, il y a beaucoup de parts de la kiné que j'ai complètement volontairement délaissé pour me spécialiser dans un domaine. Mais ça reste très très large et si demain j'ai envie de changer, je pars en neuro dans un centre de rééducation, tu vois, je peux travailler avec des grands brûlés, enfin tu vois, il y a plein de trucs, donc c'est hyper vague.
Ok. Et c'est pour ça que du coup t'es allé chercher t'es allé chercher justement d'autres compétences dans l'ostéo, je vois que tu te formes beaucoup, que t'apprends beaucoup de choses, et t'es allé prendre dans l'ostéo ce qui allait justement te servir sur ce qui était rhumato et traitement des pathologies, c'est ça?
Alors pas tout, alors oui et non. En fait, quand j'ai fini mes
expert,
études, ouais, mais c'est intéressant. Et puis on va tomber sur la question quelle est la différence entre un kiné et un ostéo. Je sais qu'elle te brûle les lèvres, donc je me prépare. Mais pour faire très simple, quand j'ai fini kiné, j'ai fait ensuite une formation de 2 ans en thérapie manuelle. Ouais. Qui est pour faire simple apprendre d'autres techniques pour m'aider en tant que kiné et de mieux bilanter les patients aussi, ouais. Donc au sein de l'ITMP. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait 1 an de formation en tissulaire. Donc là, c'est des techniques plus douces où tu apprends à poser les mains, à ressentir les tissus, etc.
Okay.
Et tout ça, ce sont des outils qu'utilisent aussi les ostéos.
Ouais.
Et en fait, à la fin de tout ça, j'avais un peu tous les outils des ostéos,
ouais.
Mais j'avais pas le raisonnement, j'avais pas la démarche intellectuelle. Et donc après, je suis parti pour 4 ans d'ostéopathie.
Okay.
En plus, donc de ces 3 ans que je venais faire pour mieux comprendre l'ostéopathie. Et en fait, l'ostéopathie, c'est pas un outil pour les kinés, c'est un autre métier.
Ouais.
C'est une autre vision. Donc en fait, c'est assez différent quand même. Alors des fois, les deux peuvent traiter une pathologie, mais des fois, t'as vraiment besoin que de l'un, des fois, t'as vraiment besoin que de l'autre. Mais la vision intellectuelle, la démarche de traitement, la démarche de comment la douleur est apparue chez une personne, elle est complètement différente.
Okay.
Et après, je suis ostéo pour d'autres raisons. Un, dans le milieu du sport, ils veulent des kinés ostéo. Tu peux être le meilleur kiné du monde si t'es pas ostéo dans le milieu du sport. Je sais pas pourquoi les athlètes ne veulent pas que tu les prennes en charge. Donc j'ai aussi fait ostéo pour le titre et parce que bah des fois ouais, je suis dans le crossfit. T'es kiné ostéo? Non, je suis que kiné. Ah ouais, non. Il y a cette croyance qu'il faut absolument un ostéo. Et vu que moi, je savais que je voulais travailler dans le sport, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis parti dans l'ostéopathie.
Ok, bah écoute, je savais pas ça du tout. Donc, je demanderai aux futurs athlètes que j'irai interviewer pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'avoir le titre d'ostéo. Mais tu vois, bah moi, en tant que curieux, ouais. Tu vois, intellectuellement, j'aime toujours comprendre quand je vais voir un médecin, un professionnel de santé, je lui demande toujours pourquoi, 25 000 fois pourquoi, durant l'échange, et je demande aussi beaucoup à comment est-ce que je peux prévenir, comment tu vois que je peux traiter. J'essaie d'être proactif, si tu veux, dans mes traitements. Mais en fait, si tu veux, moi, ça me rassure beaucoup dans ton approche. De me dire ah bah tiens il connaît aussi un autre métier et du coup il est beaucoup plus conscient de ce qu'il est capable de soigner ou pas tu vois
ouais.
Donc peut-être que
ça joue ça fait partie en effet de ce que me dit c'est moi je préfère avoir un kinostéo parce que bah il a les deux casquettes il va pouvoir me faire de l'ostéo quand je l'aurai besoin et de la kiné quand j'en aurai besoin etc pour le patient il a en fait 2 professions en une donc c'est tout à fait cohérent aussi tu vois c'est je n'importe quoi je préfère aller voir je suis très nul en mécanique mais peut-être un garagiste qui ne fait pas que des pneus et qui fait des pneus et des moteurs
ouais.
Parce que comme ça quand j'aime la voiture il peut tout faire d'un coup
ouais bien sûr
j'exagère un peu mais tu vois dans l'idée c'est un peu le même principe donc je la comprends cette envie. Mais un kiné ostéopathe n'est pas forcément meilleur kiné qu'un kiné tout court.
Ouais.
Tu vois, il a juste d'autres outils, une autre vision, etc. Comme peut en avoir un kiné que kiné qui aura fait d'autres formations à côté.
Ok, ouais, ça me fait beaucoup penser aussi à mon cas. Désolé, je ramène ça à moi, mais là, je suis en train de me former à la préparation mentale.
Ouais, excellent.
Tu vois, et c'est pareil. En fait, t'as plein d'outils, t'as l'hypnose, la visualisation. Et tu peux te spécialiser, tu peux devenir hypnothérapeute ou et à l'inverse, tu peux essayer d'avoir une approche un peu plus holistique, plus complète avec plein d'outils. Et ça veut pas dire que t'es meilleur,
non,
mais que tu touches un peu.
Si tu prends que un coach ou un coach qui est aussi formé en nutrition.
Ouais.
Tu vois, c'est le même principe.
Ouais. Ok. Bon, je vais pas te demander du coup quelle est la différence entre les deux, mais je vais te poser la question un petit peu différemment, notamment parce que tu m'as dit que t'avais beaucoup de patients qui faisaient de la course à pied, du triathlon, du trail.
Ouais.
Moi, j'ai beaucoup d'auditeurs effectivement qui font des sports d'endurance, notamment parce que moi j'en ai fait, parce que j'en ai interviewé plusieurs. Dans le cas d'un coureur à pied, tu vois, et si on prend les pathologies assez fréquentes qu'on pourrait lister, dans quel cas, sur quel type de pathologie faudrait mieux peut-être aller voir un ostéo et sur quel autre type de pathologie faudrait mieux aller voir un kiné. Je sais pas si j'ai bien posé la question.
Ouais, t'as bien posé la question. Je vais répondre à côté, mais tu vas comprendre pourquoi.
Vas-y.
Je vais pas vraiment parler en termes de quelle pathologie, parce qu'en fait n'importe lequel de tes auditeurs aujourd'hui, quand il a mal au genou, il sait pas pourquoi il a mal au genou. Tu vois, la pathologie, il l'a pas, le diagnostic, il l'a pas. Globalement, s'il a mal par exemple sur le devant du genou, qui est la plus grande douleur que j'ai moi avec mes coureurs au cabinet. Spontanément, quand t'as mal devant le genou, ça peut être beaucoup de trucs, mais les trois principaux, c'est soit ton tendon rotulien, soit ton genou, l'articulation en elle-même, ce qu'on appelle un syndrome fémoro-patellaire ou un syndrome rotulien, soit ton ménisque. C'est les trois grandes pathos, tu vois. Quand alors on parlait un peu des, quand quelqu'un arrive au cabinet, moi j'en ai une dizaine d'étiologies, mais je vais quand même plutôt partir sur ces trois-là parce que c'est les plus fréquentes.
Ouais.
Et après j'ai mes tests et j'élimine. Donc en fait, la personne, elle sait pas ce qu'elle a. Elle sait juste qu'elle a mal devant le genou, qu'elle a mal au bout du troisième kilomètre, ou qu'elle a mal au bout du huitième, ou qu'elle a pas mal pendant et qu'elle a mal après, mais ça lui parle pas, ça lui permet pas d'avoir le diagnostic.
Ouais.
Ce que je vais répondre.
Elle peut t'expliquer aussi comment elle ressent la douleur.
Oui, bien sûr, il y a plein d'éléments.
Il y a des gens pour qui c'est difficile aussi d'expliquer.
Exactement. Ce que j'aurais tendance peut-être à dire, c'est que spontanément, si t'as une douleur et que c'est un peu la première fois que tu l'as, j'aurais tendance à dire va voir peut-être plus un kiné qui s'y connaît un peu en course à pied. Pourquoi ? Parce que la plupart des douleurs de genoux que moi j'ai chez mes patients, c'est souvent des problèmes qui sont dus plutôt à un volume d'entraînement qui correspond pas.
Ouais.
Tu vois, la plupart, ils sont mal parce qu'ils préparent une course et qu'il y a un truc qui va pas dans leur préparation. Donc, ils se font une pathologie de surutilisation. C'est le gars qui fait des D-burn et qui veut préparer un marathon et qui s'y prend mal. C'est le mec qui fait des marathons et qui veut préparer un trail et qui s'y prend mal. Tu vois, c'est quelqu'un qui va changer quelque chose au vu d'une échéance et où des douleurs vont apparaître.
Donc, il augmente son volume. Et
voilà. Ou alors, il a changé de chaussure et il est passé sur une chaussure complètement différente, sur une minimaliste et il s'est pas laissé le temps de s'adapter, etc. Souvent, il y a une erreur où sa récupération est moins bonne. Son enfant, il vient d'avoir un enfant qui fait passer nuit. Enfin, tu vois, je sais que je te parle. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui fait que il y a un déséquilibre entre ce que je fais et ce que je peux encaisser et les douleurs apparaissent. Donc quand tu vas aller voir le kiné, il va t'aider à guérir la structure. Donc si c'est une tendinite, il va t'aider à faire tendinite, mais c'est pas grave. Si c'est ton tendon, il va t'aider à renforcer ton tendon. Si c'est ton cartilage, il va t'aider. Si c'est ton ménisque aussi avec du renfo, etc. Mais en plus, il va te tipser parce que tu vas le voir régulièrement. Il va t'accompagner sur une reprise progressive de ton volume d'entraînement, etc. Évidemment qu'un ostéopathe veut faire tout ça, mais dans le modèle ostéopathique où tu vois plutôt le patient une fois par mois, etc., ça s'y prête moins. Là où le kiné, tu le vois plutôt une fois par semaine ou autre chose.
Okay.
Par contre, si t'as une douleur qui est récurrente, tu vois, justement, t'as fait ta réduc avec ton kiné, ça va mieux, et puis 6 mois après, la douleur, elle revient, etc., tu vois. C'est là où les cartes podo et ostéo, tu vois, je vais mettre les podos avec, elles peuvent être intéressantes parce qu'il y a peut-être dans ta manière de courir, dans ta biomécanique, dans ta foulée, dans la manière dont ton corps bouge, un déséquilibre sur lequel le kiné n'aura pas mis le doigt, et sur lequel un podo ou un ostéo vont pouvoir t'aider.
Ouais.
D'accord. Donc c'est des grandes généralités, hein. Évidemment, tu peux aller voir un ostéo sur une première douleur et compagnie, mais dans la manière dont fonctionnent un peu ces différents métiers, c'est vrai que ça peut être pertinent. Évidemment, tu peux aussi aller voir un podo en première intention, mais moi dans ma vision, je trouve que c'est assez pertinent de faire ça. Parce que beaucoup de blessures en course entre elles et compagnie sont plus des erreurs quelque part que dues à j'ai un bassin décalé, tu vois, ou des fausses croyances qu'on pourrait avoir là-dessus.
Ok, hyper intéressant comme approche. Moi, j'ai eu tendance souvent à aller voir plusieurs professionnels.
Tout à fait.
Et avec des spécialités différentes pour avoir. Et je sais que assez souvent, j'ai eu des diagnostics assez différents. Tu vois, qui fait que je me suis posé la question de qui est-ce que je vais voir et qui est-ce que je crois, qui est toujours difficile. Sachant que, bah, tu vois, il y a beaucoup de respect aussi entre les professionnels de santé. Ouais. C'est normal de pas démolir le diagnostic de quelqu'un d'autre. Comment savoir qu'on voit le bon thérapeute, tu vois, et que c'est le bon thérapeute pour soi, tu vois.
Ouais, c'est très difficile, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde se forme un peu à gauche à droite.
Ouais. On a nos croyances.
Ouais, exactement.
Pied de l'humain. Alors,
le point le plus important, je pense, pour savoir si t'es avec la bonne personne, ça va être sa capacité à se remettre en question.
Ouais.
En réalité, des erreurs diagnostiques, j'en vois tout le temps. Les ordonnances, par exemple, je les lis même plus de mes médecins ou des rhumatos. Pourquoi ? Parce que même si j'ai énormément de respect pour leur formation et compagnie, ils ne savent pas bilanter de la même manière que ce que nous, on a l'habitude de faire. Moi, je préfère largement un médecin qui me met douleur de genou, 20 séances de rééducation. Tu vois, il a pas essayé, etc. Plutôt qu'il avait marqué tendinite du quadriceps. D'ailleurs, moi, je récupère un patient qui a tapé doctissimo tendinite et qui pense qu'il en a pour 2 ans avec 3 infiltrations et qui a déjà essayé plein de trucs et qui a pas marché, tu vois. Alors que, au moins, douleur de genou, moi, j'y vais. Les bilans, ils sont très compliqués. Des fois, c'est assez facile, comme on l'a vu. Des fois, c'est d'autres pathologies. Des fois, on avait des imageries. Du coup, on pense à quelque chose alors qu'en fait, il y a autre chose sous-jacente. Un thérapeute qui sait se remettre en question, ça montre que globalement, bah, le corps humain, il est complexe.
Ouais.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Qu'il y a des pathos qui sont très souvent les premières à arriver, mais que des fois c'est autre chose aussi.
Ouais.
Et moi, je dis à un patient, et ça je le dis à chaque séance, on met en place quelque chose, si au bout de 3 séances ou de 2-3 semaines, il n'y a pas de différence, on change.
Okay.
Pour moi, le pire, c'est quand il n'y a pas de différence. Je préfère largement un patient qui s'aggrave avec ce que je lui donne, plutôt que qu'il n'y a pas de différence. S'il n'y a pas de différence et que je mets quelque chose en place, c'est que j'ai tapé à côté. S'il s'aggrave, c'est que j'ai tapé sur le bon truc, mais que je ne l'ai pas fait de la bonne manière.
Ouais, ouais.
Tu vois, et puis des fois le patient, tu vas commencer une rééducation avec lui, ça va bien se passer, il va s'améliorer de 40%, et puis tu vas faire un plateau et il va dire bah là Aymeric, ça allait mieux, j'étais content, et puis maintenant ça fait quelques semaines que ça évolue pas. Pourquoi? Parce que tu peux aussi avoir plusieurs éléments,
bien sûr,
tu vois. Donc c'est hyper compliqué de te dire dès la première séance tu peux pas savoir si t'es face à un bon thérapeute, que ce soit un kiné, un ostéo, un généraliste, un rhumato. Je pense que les pires sont ceux qui restent focalisés dans leurs idées, leurs croyances, qui sont pas à l'écoute du patient, qui ne répondent pas aux questions ou qui répondent à côté et qui ne prennent pas le temps. Alors après, il y a le côté, là c'est une nouvelle page économique, business model et compagnie, parce que des fois, il y en a qui n'ont pas le temps, parce que financièrement, à 16,13€ pour les kinés, on peut pas toujours passer 45 minutes avec nos patients.
Ouais.
Mais par contre, qu'un patient qui te dit au bout de 2-3 séances, bah là, ça évolue pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et qui continue à te faire toujours les mêmes choses, là, il faut changer.
Ouais, bien sûr. Ok. Ouais. Ça me parle tout à fait. J'ai eu une expérience, où je me suis cassé les cordes vocales. Ça a été mal diagnostiqué et du coup je me suis retrouvé chez un ORL à faire des exercices de voix, et au bout de 15-20 séances, c'était toujours j'avais toujours ma voix qui était complètement pétée et raillée, et du coup je suis allé voir un autre phoniatre qui m'a dit mais en fait ouais, le diagnostic était servait à rien, il faut et je me suis fait opérer des cordes vocales,
tu vois. Mais tu vois, donc, le fait que t'aies fait 20 séances sans amélioration, ça montre bien qu'on avait tapé à côté.
Ouais.
Tu vois, c'est exactement le même principe. Donc en effet, après selon les pathologies, on peut se laisser des délais, tu vois.
Ouais.
Selon la personne, pour la raison à laquelle elle vient me voir, depuis combien de temps elle a mal et compagnie, tu vois. C'est ça peut varier, mais il faut qu'à un moment donné ça bouge. Et faire toujours la même chose, si ça marche pas, non, il faut faire autre chose.
OK.
Un autre élément qui peut aider aussi les gens, ça va peut-être être dans le milieu du sport, tu vois, à quel point on vous interdit de faire ce que vous voulez faire. Un thérapeute, que ce soit un médecin, un rhumato, qui te dit tu fais de la course à pied, arrête, vous pouvez changer de thérapeute.
Ok.
Tu vois, mis à part si t'as pris un bus à 130, tu vois, ou que t'as vraiment eu quelque chose de grave, mais ce qui est quand même pas la majorité des cas. Si on vous dit c'est fini pour toi, il y a un problème. Si on te dit pendant un moment on va adapter, on va réduire, mais le but ça va être de retourner à ton activité, là ça me plaît. Et je pense que tes auditeurs, c'est plus monsieur, madame, tout le monde, tu vois, que une personne qui a pris un bus en 30, ou quand tu commences à atteindre les 80, 90 ans, où en effet, la capacité d'adaptation de ton corps, elle est quand même plus qu'elle était à l'époque. Mais au final, toi et moi, aujourd'hui, notre corps, il est capable de vraiment s'adapter à beaucoup de choses. Moi, j'ai une hernie discale, j'ai fait 3 infiltrations, j'ai pas fait de sport pendant 1 an. Je pouvais même plus m'asseoir, j'ai passé quasiment 1 an debout.
Okay.
Aujourd'hui, je fais du squat à 150 et des soulevés de terre à 180. Je sais pas, en me disant je suis trop fort, en disant que voilà, j'ai été obligé d'arrêter pendant 1 an, mais ça a été pendant un moment donné. Si quelqu'un m'avait dit non Aymeric, aujourd'hui pour toi le sport c'est fini, non, ça me va pas, tu vois, j'ai pas eu un truc grave, tu vois, j'ai pas eu une opération, on m'a pas enlevé un fémur, on m'a pas enlevé un muscle, y a pas de raison. Et la plupart des gens, souvent quand ils sont blessés, ils vont tomber sur des thérapeutes aussi qui vont leur interdire définitivement une activité. Ok, aujourd'hui la course à pied c'est fini, il va falloir que tu fasses que de la natation pour protéger ton dos. Ça c'est des croyances qu'on avait il y a 20 ans, mais qui sont plus le cas aujourd'hui. Et une fois de plus, on retombe sur un thérapeute qui n'est pas à l'écoute des demandes de mon patient. Mon patient, s'il veut reprendre la course, il va reprendre la course. Des fois, il reprend le jour de la séance, mais il va courir que 3 minutes, mais au moins, ça lui montre qu'il va pouvoir recourir. Des fois, il me dit, ok, là, t'es vraiment dans une phase inflammatoire, on se fait une pause de 2 semaines, repos complet, mais à la 3e semaine, on va reprendre.
Ouais.
Ça, c'est un autre élément assez intéressant qui peut des fois vous permettre de vous dire, est-ce que oui ou non, le thérapeute, il est à l'écoute de ce que je veux ou pas.
Ok, ok, très 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 clair. C'est marrant, tu vois, ce thérapeute justement qui te dit c'est fini, plus jamais. J'ai beaucoup entendu ces mots et cette histoire avec des athlètes paralympiques,
ouais,
qui ont souvent, un trauma du coup physique dans leur vie, à qui un médecin leur a dit très brutalement juste après leur accident, c'est fini. Et en fait, tu vois, 10 ans plus tard, ils sont champions paralympiques avec une médaille d'or, et ils te disent que tout est possible, quoi.
C'est des modèles de résilience et de à quel point le corps peut s'adapter.
Ouais.
Alors oui, ils vont peut-être plus faire le marathon en 2h10, ok, mais ils feront toujours des marathons.
Ouais,
tu vois.
Exactement. Et bah d'ailleurs pas très loin d'ici, il y a Mathieu Thomas d'ailleurs qui est un champion de para badminton.
Okay.
Tu vois qui a eu un nerf sectionné sur sa jambe droite, qui ne réagit plus du tout, et à qui on a dit qu'il pourrait plus jamais courir, et aujourd'hui il est en route pour les Jeux Paris 2024.
C'est énorme.
Et tu vois, c'est l'histoire est trop belle quoi.
Voilà. Et encore, tu vois, nerf sectionné. Pour moi, là, je le mets dans la catégorie gros accident et compagnie. Tu vois, c'est un truc quand même assez rare, hyper spécifique.
Ouais,
mais en effet, enfin, moi, j'avais eu la chance d'échanger avec Philippe Croison, quadri amputé, qui te raconte qu'il traverse la Manche à la nage, etc. Enfin, et c'est des histoires de vie où tu te dis, c'est toujours possible. Et une fois de plus, comme je dis, en adaptant.
Ouais.
Tu vois, il a su adapter. Ça lui a demandé un temps de préparation de dingue, plusieurs années, mais il y a quand même des choses qui sont possibles.
Ok. Si j'ai bien compris, quand on a une douleur qui est naissante, pour aller faire peut-être un bilan, un diagnostic. Du coup, notamment pour des athlètes, parce que je considère, enfin, tu vois, les auditeurs font beaucoup de sport qui nous écoutent aujourd'hui, et l'ostéo, ça va être plutôt sur quelque chose de récurrent, peut-être pour aller chercher dans d'autres domaines parmi ce qui a déjà été exploré. C'est un peu, je le reformule un petit peu différemment de ce que t'as dit, mais c'est à peu près ça.
C'est ça. Après, il y a le côté, on va dire, purement administratif, qui est qu'aujourd'hui, si tu veux voir un kiné, il faut passer par ton médecin généraliste qui va te faire une ordonnance.
Ouais.
Et avec des délais d'attente qui sont longs, selon les kinés. Là où des fois, l'ostéo, bah, dans la semaine, t'as un rendez-vous. Donc ça peut être aussi l'une des raisons pour laquelle des fois on va plutôt tendance à aller voir un ostéo, c'est parce que bah j'ai un problème dans la semaine, j'ai mon rendez-vous chez l'ostéo, tu vois. Okay. Alors que le kiné, il faut que j'aille vraiment généraliste, que je prenne rendez-vous, il va avoir une heure de retard, il va me prendre, après il faut que je prenne rendez-vous chez mon kiné et le radio, le généraliste veut d'abord que j'aille faire une radio, qui d'ailleurs va très souvent servir à rien, etc., etc. Tu vois. Donc en fait, il y a tout un process administratif français qui est des fois très très long. Là où des fois la case ostéo et qui peut coûter cher, là où des fois la case ostéo elle est extrêmement rapide et qui peut des fois suffire. Attention, je dis pas qu'il faut toujours aller un kiné, mais des fois ça peut suffire et c'est souvent beaucoup plus rapide. Et puis tu te retrouves comme ça très rapidement avec un pro de santé qui s'y connaît, qui va pouvoir s'y connaît un peu, te donner aussi des indications sur le volume d'entraînement, sur tout ce dont on a parlé, etc.
Ok. Et est-ce que il y a dans le domaine sportif et dans les blessures sportives et les pathologies que tu vois régulièrement des choses que ne peuvent traiter uniquement des kinés? Ou versus uniquement des ostéos, est-ce que ou à l'inverse, est-ce que tout peut être à peu près traité par les deux, mais c'est juste avec une approche différente, des façons de faire différentes, un moment de la blessure différente aussi.
Ouais.
Tu vois, je pense que pour une réathlétisation, un kiné va être sûrement plus pertinent qu'un ostéo.
C'est ça.
Mais
globalement, la réathlétisation, tu ne l'as quasiment que après une grosse période d'immobilisation, donc en général c'est des grosses blessures, plus ou moins des opérations. Donc en effet, si t'as une blessure avec immobilisation, de toute façon t'auras de la rééducation à faire. C'est mon exemple de moi quand j'étais plus jeune et qui ne l'ai jamais fait, tu vois. Après le sportif lambda qui fait du sport régulièrement et qui commence à avoir une douleur qui apparaît, etc. Plus ça fait longtemps que ça traîne, plus il y a de probabilité que la kiné soit le meilleur outil. Mmh. Pourquoi ? Plus ça fait longtemps que ça traîne, plus ton corps il a entraîné des adaptations. Plus ton tendon il va changer de forme, tu vois. Plus tu vas créer des compensations et des déséquilibres gauche-droite, donc là le kiné sera plus efficace.
Ouais.
Plus c'est récent, j'ai n'importe quoi, je faisais un peu de squat et je me suis bloqué le dos, je faisais mon fractionné et d'un coup j'ai une douleur de genou qui est apparue. Quand la douleur, elle vient d'apparaître, il faut différencier douleur et blessure. Tu peux avoir une douleur avec un tissu qui est exactement dans le même état que ce qu'il était avant que tu ailles courir.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas quand c'est la première fois que t'as mal quelque part. Et donc, dans ce cas-là, l'ostéopathe, qui utilise plutôt des techniques passives, aura une grande, grande efficacité. Donc, ça dépend depuis combien de temps t'as mal. Plus t'as mal depuis longtemps, plus il y a la probabilité que ton corps ait changé.
Ouais.
Et plus là, dans ce cas-là, le kiné qui a des outils actifs de renforcement, etc., sera important.
Okay.
Et plus c'est récent, plus l'ostéopathe peut t'aider aussi.
Ok. Très, très, très clair. Et le crossfit dans tout ça?
C'est génial.
J'ai l'impression qu'il y a un cercle très vertueux entre l'ostéopathie, la kiné et le crossfit. En quoi toi le crossfit t'enrichit dans ton métier, dans ta façon de traiter les athlètes, tu vois, aujourd'hui?
Moi, le crossfit aujourd'hui m'a apporté deux choses principales. Premièrement, en école de kiné, on ne nous apprend absolument pas à réaliser les mouvements. Donc on m'a jamais appris à faire un squat, on m'a jamais appris à faire un soulevé de terre, on m'a jamais appris à faire des pompes, à faire du développé couché. Et deuxièmement, on ne nous apprend absolument pas à prescrire des exercices. Donc moi je suis diplômé de 2013, donc je suis un peu un ancien on va dire par rapport aux jeunes diplômés, ça a un petit peu évolué, mais on ne sait pas. Et ces dernières années, toute la littérature scientifique, quelles que soient les pathologies, elle tend à intégrer de plus en plus d'exercices actifs dans nos rééducations.
Ouais.
Donc aujourd'hui, un mal de dos, il faut faire des exercices actifs, un problème de genou, un problème d'épaule. Et on ne sait pas les casquaires.
Ouais.
Et donc, on s'est retrouvé à un moment donné à ce que tous les kinés fassent 3 séries de 10 répétitions pour tous les exos avec le même élastique pour tout le monde.
Ouais.
Le crossfit, là-dessus, alors les gens qui ont fait de la muscu, ça marche aussi très bien. Mais que ce soit muscu ou crossfit, mais le crossfit, à titre personnel, m'a énormément formé. 3x10, 3x12, le pourcentage de ton maximum, tu vois, les 1RM et compagnie, les temps de récupération, les différents formats, etc. Tout ça, ce sont d'excellents outils que les kinés vont pouvoir intégrer dans leur rééducation pour, un, rendre ça juste plus ludique et plus agréable pour le patient.
Ouais.
Si c'est plus ludique et plus agréable, la probabilité que le patient fasse les exos chez lui, elle est aussi augmentée. Donc, c'est hyper important pour persévérer les bénéfices parce que c'est extrêmement important que le patient continue. Et déjà aussi mieux prescrire. Aujourd'hui, toi, j'étais au cabinet, je vais plus te faire un 3x10. Toi, t'es sportif, t'as l'habitude. Sûrement que si je te fais faire des squats pour une raison X, Y, c'est plutôt un 4x15 ou un 5x15 avec une minute de récup, avec une charge assez élevée, on t'aura besoin.
Ouais.
Mais ça, en sortant d'école de kiné, on me l'a pas appris. C'est vraiment le crossfit qui m'a appris ça.
Ouais, donc ça t'aide vraiment même directement dans ta profession.
Ouais, exactement. Et le deuxième, un autre point qui est intéressant dans le crossfit, c'est que la définition du crossfit, pour ceux qui connaissent pas, pour faire très simple, c'est un entraînement constamment varié, point numéro un, à haute intensité, avec des mouvements fonctionnels. Et en fait, le côté haute intensité rend impossible l'exécution parfaite d'un mouvement.
Ouais. Et ça, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup. Ce que certains professionnels de santé reprochent au crossfit, ouais, c'est justement cette course au temps et cette autre chose.
Ouais, mais du coup, moi, pour passer mon level 1 de crossfit, qui est la formation obligatoire pour pouvoir l'enseigner, eux, dans la formation, ils te disent bien que c'est au coach de trouver ce bon équilibre entre la posture n'est pas parfaite, mais elle est quand même relativement convenable et on peut laisser faire l'adhérent. Et là, clairement, la posture, elle est pourrie. Il va se faire mal, il faut l'arrêter, tu vois. Et j'aime bien parce que ça a enlevé une grande kinésiophobie de la part des kinés qui était à un moment donné, les kinés, c'était te penche pas en avant, tu vas te faire mal, plie tes genoux pour faire tes lacets et compagnie. Il y a eu ce courant-là, il y a une dizaine d'années où vraiment le dos était fragile et il devait toujours rester droit, il devait jamais plier en avant. Et ce crossfit, il nous a montré que, la plupart des adhérents, ils arrivaient à faire des soulevés terre avec le dos un peu arrondi sans problème, ils arrivaient à faire du volume avec des postures pas toujours parfaites, à soulever des bonnes charges et ils se faisait pas plus mal que les autres sportifs. Donc en fait, ça nous a enlevé un peu chez les kinés cette kinésiophobie et ce côté le corps s'adapte. Il va falloir lui laisser un peu de temps et si on se blesse, c'est peut-être plus parce qu'on lui laisse pas assez de temps que parce que le mouvement n'était pas aussi parfait que ce qu'on l'espérait.
Ok, ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Et est-ce que ça t'a aussi alimenté dans le fait que dans le crossfit, t'as tellement de mouvements, on essaie d'intégrer tellement de disciplines, c'est un sport qui évolue, qui est jeune, qui évolue beaucoup. Ouais. Est-ce que ça aide aussi en fait à garder un peu cette curiosité intellectuelle qu'il y a dans le monde du sport de manière générale? Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le crossfit qui sont très quand même curieux de soi, de leur nutrition, de beaucoup de choses, tu vois, là où tu l'as pas forcément peut-être dans d'autres sports, tu vois.
Ouais, en fait là j'ai deux questions en une. En effet, ça le crossfit, comme tu le dis, par rapport à juste un runner qui va faire ses programmes d'entraînement, donc la variabilité dont on vient de parler, des fois des séances courtes, des séances longues, ça enlève le crossfit, mais le crossfit prône aussi beaucoup la récupération, prône la mobilité et prône une bonne alimentation. Et d'ailleurs, dans la pyramide du crossfit, la base de la pyramide, ça va être ça, va être l'alimentation.
Ouais.
Donc ça, c'est un élément extrêmement important, en effet, qui est prôné en permanence. Par exemple, dans le crossfit, on te dit de faire 3 jours de travail, 1 jour de repos.
Ouais.
Tout le monde ne le fait pas parce que nous on travaille du lundi au vendredi, qu'il y a week-end, etc. Donc chacun organise son programme et la manière dont le crossfit est préconisé, c'est ça. C'est 3 jours on, 1 jour off. 3 jours on, 1 jour off, tu vois.
Ouais.
Donc ça, en effet, c'est extrêmement pertinent sur la modulation de l'entraînement, être capable de gérer sa récupération, de faire des fois que d'altéro, des fois de la gym, tu vois, toutes ces variabilités, elle est extrêmement intéressante. Et le deuxième point, vu comme tu le dis que le crossfit c'est très varié, quand t'es thérapeute et que t'as des patients crossfitters, en fait t'es obligé de t'intéresser à de la gym. Quelles sont les préconisations de la gym? À de l'haltéro, à du cardio. Et en fait, tu vois, tout à l'heure on parlait un peu de quand tu fais kiné, tu fais 10 métiers différents. Mais en fait, quand tu fais kiné d'un sport, c'est encore complètement différent de kiné d'un autre sport.
Ouais.
Parce que quand tu vas prendre en charge que des runners, il faut que tu connaisses la course à pied parfaitement. Et quand tu prends en charge des gymnastes, il faut que tu connaisses la gymnastique. Il faut que tu saches à quel point ton épaule elle doit être forte et mobile. Parce que c'est pas du tout la même force et mobilité que monsieur, mame tout le monde derrière son ordinateur qui fait un peu de pompe à la maison. Et donc en fait, tu pourrais limite avoir un kiné spécialisé par sport, parce que chaque sport ne va pas te demander les mêmes prérequis de force, de mobilité, de récupération, de volume d'entraînement, de type de morphologie. Enfin, c'est extrêmement varié. Donc en effet, le crossfit, tu te rends compte que quand tu prends un patient crossfitter, il faut que tu sois capable de taper un peu dans tous les domaines.
Ouais, ok. Et ça t'a jamais, vu que t'es passionné de crossfit, t'aimes aussi beaucoup accompagner. Ça t'a jamais été tenté de passer, on va dire, de l'autre côté de la barrière, côté coach et accompagnant dans le CrossFit?
Alors, j'aurais bien aimé, par exemple, suivre un athlète de CrossFit.
Ouais.
Tu vois, par exemple, sur du long terme. Pourquoi? Parce que c'est moins chronophage que de suivre une équipe. Donc ça m'aurait permis de garder mon cabinet, de parce que une équipe, tu vois, moi j'aurais pas aimé d'avoir toujours tout le temps que les mêmes joueurs. J'aurais pas aimé être le kiné d'une équipe. Mais d'un sport individuel, pourquoi pas? Après aujourd'hui, il y a pas les moyens dans le CrossFit suffisants pour que la plupart des kinés de crossfiteurs de haut niveau puissent avoir leur kiné attitré.
Ouais.
Tu vois. Donc j'ai eu la chance par exemple d'accompagner Willy George qui est toujours pendant le numéro 1 français en CrossFit.
Bien sûr.
Quand il a eu son souci d'épaule, bah je l'ai aidé, tu vois, à distance sur sa rééducation et compagnie, et j'avais trouvé ça très cool parce que bah c'est absolument pas les mêmes prérequis et les mêmes rééducations qu'un sportif lambda, tu vois, il avait entre 3 et 6 semaines d'avance sur la plupart des protocoles, les chirurgiens, ils en revenaient pas de sa capacité de récupération.
Ouais, c'est dingue.
Donc ça j'avais trouvé ça très cool de pouvoir le suivre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a peu de sportifs crossfiteurs de haut niveau qui peuvent se permettre d'avoir un kiné en plein et compagnie. Et le CrossFit se veut tellement complet, comme on l'a vu, qu'au final, si on suit bien une bonne programmation de CrossFit, bah, le volume, il est géré, la récupération, elle est gérée, il y a du renforcement accessoire, donc la prévention, elle est faite.
Ouais.
Donc au final, ils ont peut-être plus besoin, tu vois, d'un peu d'étirement passif, plus de confort et de relâchement que de vraiment un kiné qui leur fasse de la, ce qu'on appelait de la pré-rehab, donc ce qu'il y a avant la rehab, donc avant de se blesser. Et ça, la plupart des crossfiteurs de haut niveau, en tout cas en France, ils l'intègrent automatiquement.
Ouais, ok. Je switch un petit peu de sujet parce que ouais. Je vois le temps qui passe et on a dit qu'on essayait d'être timé. Je voulais beaucoup te parler aussi de la création de contenu. Forcément, c'est un des points communs qui nous lie.
Oui.
Alors bon, c'est des contenus très différents qu'on fait, mais moi j'ai beaucoup aimé ton travail, comme je le disais en intro. Là, tu sors un livre d'ailleurs ouais. Que je recommande. On va en parler. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer du contenu maintenant, j'ai l'impression que c'est très à la mode.
Ouais.
Vous êtes plusieurs. En tout cas, moi, tu fais partie de ceux que j'apprécie beaucoup.
Merci.
Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie?
Eh ben, une fois de plus, le hasard. je ne voulais. Alors moi, je suis le genre de gars qui te dit je ferai pas quelque chose et qui finit par le faire. Donc, j'ai hésité parce que j'ai toujours été formateur. J'ai toujours aimé apprendre aux gens. Tu vois, je faisais réviser mes potes en école de kiné, etc. Donc, je me suis dit ouais, c'est un truc qui me plairait. Mais à l'époque, il y avait déjà 4-5 kinés qui avaient des comptes bien développés. Il y avait Major Mouvement, Monsieur Clavicule, la chaîne Santé, etc. Cerveau musclé. Je m'étais dit non, c'est bon. Il y en a déjà assez, ça suffira. Et puis pendant le premier confinement, moi à l'époque, j'avais travaillé avec Sissi Mua, qui fait des programmations de sport en ligne, qui a une application qui est extrêmement suivi, qui est peut-être la plus connue en France.
Ah ouais.
Et j'avais bossé avec elle avant le confinement. Et pendant le premier confinement, elle me dit, bah, Aymeric, sur mon application, donc j'avais fait ce qui était étirement mobilité, est-ce que tu veux pas qu'une fois par semaine, on fasse un live ensemble? Elle faisait des live sport tous les jours. Et elle m'a dit, on va faire une fois par semaine, on fera un live ensemble et on fera des étirements. Je lui dis, bah, écoute, ouais, très cool, ça leur fera une séance de récup active aux gens, etc. Et on finit le live. Et à la fin du live, je prends 2000 followers sur Instagram.
Ouais.
Donc j'avais mon compte perso Aymeric avec des photos de mes chats et de mes brunchs, tu vois. Et à la fin de ça, je prends 2000 followers. Je suis, waouh, c'est ouf. Semaine d'après, rebelote, on se refait un live, boum, à nouveau 1000-2000 followers. Et les gens m'envoient un message, waouh, c'est cool ce que tu racontes, on aime bien la pédagogie, parce que en gros je faisais étirement du psoas, tu vois tout. Mais en même temps, j'expliquais, ok, ça au cabinet, je vais le faire chez tel type de patient, tu vois, je donnais un peu d'informations et les gens, ils aimaient bien la manière dont je communiquais.
Ouais.
Et donc, bah, c'est ça qui a commencé à me pousser en me disant, bah voilà, les gens, ils aiment bien. Peut-être qu'il y a déjà plein de kinés, mais peut-être que tu vas dire la même chose qu'eux, mais d'une manière différente, qui va faire que tu vas toucher d'autres personnes.
Ouais.
Donc c'est ça la première grosse étape qui m'a lancé. Et le deuxième point qui va être un peu ma spécialité ou ma spécificité en tout cas, ça va être le body painting.
Ouais.
Donc le côté dans cette pédagogie, lorsque je parle d'un muscle ou d'une articulation, bah, de venir la peindre sur la peau directement. Ça c'est vraiment un deuxième outil que j'ai vraiment voulu mettre en place.
C'est hyper puissant. Ouais.
Ouais, et qui touche. Et aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens qui viennent me parler me disent pas ton compte est génial, même si j'espère qu'ils le pensent, mais surtout me disent waouh, le body painting c'est vraiment cool.
Ouais, ça apporte.
On comprend de quoi tu parles. On comprend quand tu dis étirement du psoas, pourquoi il faut rester droit. On comprends pourquoi tu dis que le quadriceps, il faut avancer les genoux sur le squat, etc., etc.
Ouais. Et d'où est venue l'idée ou l'envie de faire du body painting? D'ailleurs, j'ai essayé de faire mes petites recherches, mais j'ai cru comprendre que c'était pas toi qui dessinais.
Exactement.
Mais quelle est l'idée, un peu la genèse, tu vois, ouais. et comment est-ce que c'est organisé?
Alors la genèse, c'est un compte américain qui s'appelle MoveU, qui ont 1 million et quelques qui font ça sur Instagram,
okay.
qui font ça en mode très très humoristique, pas toujours très très carré d'un point de vue de la science, donc des fois il raconte quelques boulettes, ouais. Mais en tout cas l'idée est venue d'eux, je trouvais ça hyper cool. J'avais travaillé avec une première personne mais qui se développait déjà beaucoup, qui était pas disponible, qui était très cher, et moi à l'époque c'était plus du bénévolat qu'autre chose, donc je pouvais pas me permettre de payer quelqu'un pour faire du body painting. Et après je suis tombé sur un compte que je mentionne souvent qui s'appelle En chair et en os, ouais. Donc c'est un étudiant qui faisait des très belles planches d'anatomie, dont une qui m'a marqué, qui était un arbre dont le tronc était en fait une colonne vertébrale. Donc, tu okay. vois le côté très artistique avec les racines et tout. Donc j'envoie un message, je dis mec c'est très beau ce que tu fais, tu voudrais pas faire ça sur un corps humain par hasard? Et donc il me dit bah pourquoi pas, il tente des trucs sur sa copine et il m'envoie des photos, je dis franchement vas-y bingo on tente un truc. Donc on fait un premier tournage comme ça ensemble et ça se passe très bien, ouais. On s'entend très bien, lui étudiant en dernière année d'ostéo donc il avait des connaissances anatomiques parfaites, ouais. Et donc on a commencé à bosser ensemble, ça s'est bien développé, lui du coup il était aussi content, ça lui a fait une visibilité, il développait ses feuilles, son compte, etc. Donc on a commencé un accord, on a continué de bosser ensemble et puis là on a dû faire je sais pas 6-7 tournages, plus bah derrière je lui ai proposé évidemment d'illustrer tout mon livre qui ouais. est rempli de body painting et c'est comme ça que ça s'est développé.
Ok, et petite curiosité, combien de temps ça lui prend ouais. de faire tu vois par exemple une jambe,
ouais,
ou,
ça, entre de une faire... demi-heure et une heure okay. en fait il a ce qu'on appelle un aérographe, donc c'est comme pour peindre les voitures, là, une sorte de pistolet à peinture, ouais. Donc quand c'est des grosses zones en fait il met un gros coup d'aérographe, en général il fait le rouge, le muscle, ouais. Et après il a plus qu'à faire les finitions au pinceau, voilà. Okay. Après par exemple quand je fais la colonne vertébrale qui sont toutes les vertèbres, il y en a 24 pour ceux qui savent pas, il doit toutes les faire une par une au pinceau,
ouais, donc, là,
donc ça c'est rien que toute la colonne c'est à peu près une heure.
Ouais, okay.
Donc ça dépend vachement des dessins, les obliques par exemple c'est très rapide, ça va être une vingtaine de minutes, ça va dépendre de la taille, de la finition, mais on va dire entre une 30 et 60 minutes.
Ok, d'accord, ouais. Ouais, donc c'est un sacré boulot, sacré investissement.
Ouais, ouais. Et puis il s'est amélioré, maintenant il commence à avoir de plus en plus l'habitude, donc évidemment son coup de pinceau il a accéléré, mais de toute façon quand on travaille ensemble en général on bloque une grosse journée, tu vois, par rapport à la création de contenu, ouais. pour gagner du temps et aussi ne pas se disperser. En fait une journée je fais plein de contenu d'avance, lui comme ça il fait toutes ses peintures et ça facilite aussi énormément le truc.
Ok. Bon bah écoute, très bon tip, c'est bravo à tous les deux parce que ça apporte je trouve beaucoup de valeur. Franchement, sincèrement, fallait oser le faire. Et ça peut paraître évident, tu vois, maintenant que ça existe, ouais. Mais en fait, quelqu'un aurait dû le faire depuis longtemps. Mais c'est pro, c'est quali, c'est court, ça impacte tout de suite. Donc, franchement, chapeau à tous les deux. Et le livre, je vais te poser un peu la question naïve, bien que tu vois, je l'ai lu. Qu'est-ce que t'avais envie de, quel message t'avais envie de faire passer, toi, dans ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à l'écrire?
Le message, c'est bouger plus. Et qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire? C'est la maison d'édition. La maison d'édition qui est venue vers moi et qui m'a proposé. Donc moi, évidemment, j'ai dit bah ouais, bingo. Ouais. Et en fait, bouger plus. Aujourd'hui, au cabinet, j'ai deux types de patients.
Ouais.
Ceux qui bougent pas assez et qui ont des douleurs. Et ceux qui bougent, mais qui savent pas comment bouger et qui, du coup, ont des douleurs. Parce qu'évidemment, personne ne vient me voir quand il a pas de douleur. Donc en fait, soit ils bougent bien, ils font du sport et c'est cool, mais ils savent pas du tout comment bouger, comment gérer leur récup, tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure sur le volume d'entraînement, etc. Donc pas de connaissances. Tu vois, la course à pied, c'est un super sport, c'est facile, tu mets des baskets et tu y vas. Mais combien de temps je cours? Tu vois, est-ce que à l'époque je pouvais courir 10 km, mais ça fait un an ou deux ans que je fais pas de sport, est-ce que je refais 10 km?
Ouais.
Tu vois. Et alors ceux qui ne bougent pas et qui n'arrivent pas à se motiver, ou ceux qui ont peur, etc. Donc en fait, il y a plein de freins aujourd'hui à faire une activité physique bonne pour la santé. Donc ça a été ça moi le but dans mon livre, ça a été de véhiculer les bons messages pour que n'importe qui veuille bouger plus, se remettre à bouger, commencer à bouger, et tous les outils pour le faire de manière sécuritaire et ne pas se démoraliser et ne pas se blesser.
Ok, bah c'est vrai que moi en le lisant, tu vois comme je te suivais et que je te connaissais un peu, je l'ai lu, et c'est vrai que je me suis dit je suis pas la cible,
ouais.
Je suis pas la cible du bouquin, mais je me suis dit par contre ça serait un super bon cadeau pour justement des gens que je vois un peu se mettre au sport un peu n'importe comment, ou tu vois il y a toujours une bonne volonté, une bonne énergie, mais quand tu te remets au sport t'as pas toujours envie de passer par un coach ou plus d'aller faire tes recherches et tout, d'y passer du temps. Et là je me suis dit waouh, c'est un condensé de savoir, t'as mis tellement de choses dedans, tellement d'énergie, je me suis dit t'auras plus rien à dire dans ton prochain bouquin quoi, tu
vois. J'avoue que j'y pense pas encore, mais... t'es pas la cible, oui non, en fait je pense que tout le monde est la cible de mon livre, mais par contre, chez quelqu'un comme toi, tous les chapitres ne seront pas intéressants. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que quelqu'un qui fait déjà beaucoup de sport depuis longtemps, qui a des connaissances, qui a déjà vu des thérapeutes ou autres, en effet, il y a plein de chapitres qui vont moins l'intéresser. Mais par exemple, pour un sportif, il y a tout un chapitre sur la douleur, hein, qui reprend un peu une partie de ce dont on a parlé tout à l'heure. Elle sera, quoi qu'il arrive, intéressante. Il y a une partie sur la course à pied, sur, comment courir, les types de chaussures, le volume d'entraînement, etc. Tu vois, ce sera toujours intéressant. Par contre, en effet, quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, il y a toute une partie sur, les pompes, comment positionner les bras, les squats, comment avancer les genoux, quand tu fais du crossfit, tu vois, etc. Comme toi, en effet, ces connaissances, tu les as déjà. Par contre, moi, l'un des publics qui est le plus représentatif, qui pourrait tirer 100% de mon livre, c'était ma sœur, qui était une personne qui a fait beaucoup de sport, qui a arrêté parce qu'elle a eu un enfant, parce qu'elle s'est mariée, parce qu'elle a développé une boîte, et qui aujourd'hui sait qu'elle doit faire du sport, mais n'a pas le temps. Là où je suis hyper content, c'est qu'elle m'a un petit peu aidé en relisant mon livre. Et en fait, en relisant mon livre, il y a un programme de sport de 8 semaines progressif. Elle a fait le programme, elle a été la cobaye numéro 1. Et depuis, elle fait du sport 5 fois par semaine. Et elle a continué une fois qu'elle a fini le bouquin. Et en fait, tu vois, pour moi, c'est ça. C'est tout le monde est le public, mais on va dire que le public principal pour ce livre-là, ce serait, et c'est pour ça qu'à offrir, en effet, tu vois, que les fêtes de Noël et compagnie, on sait tous quelqu'un qui te dit, ouais, je dois faire du sport, mais j'ai pas le temps et compagnie. En fait, on a tous le temps. Le meilleur exemple, c'est mes patients au cabinet. Personne n'a le temps. Et avant de faire leur séance de rééducation, ils n'avaient pas le temps d'aller faire du sport. Mais aujourd'hui, où ils ont une douleur, comme par hasard, ils ont le temps d'aller chez le kiné. Et aujourd'hui, mes séances au cabinet, moi, c'est une demi-heure au cabinet. Sauf que, il faut que tu viennes, il faut que tu arrives un chouïa en avance et il faut que tu repartes. En vrai, ça te prend une heure au moins deux fois par semaine. Et ces personnes-là, tu leur aurais demandé avant qu'elles aient rendez-vous chez le kiné, elles t'auraient dit, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, elles ont réussi à se dégager au moins deux fois par semaine, une heure. Donc, en fait, elles ont juste aménagé. Donc c'est plein de petits outils comme ça, tu vois, qui fait que en fait des fois, et on se met des pressions, des fois on se dit oui, le sport c'est minimum 4 fois par semaine, c'est minimum 30 minutes sinon je brûle pas de graisse, etc. Plein de fausses croyances. Non, déjà bouge-toi 10 minutes deux fois par semaine et après on en reparle, et puis derrière tu feras peut-être un quart d'heure, et puis dans un mois tu feras peut-être une troisième, etc., etc.
Ok, bon bah top. Écoute, moi j'ai bien aimé, et puis aussi quelque chose, forcément c'est ta touche un peu kiné-ostéo, c'est que t'es à la fois dans la nuance et à la fois tranché sur certains sujets, et tu te fies à la science, et il y a un peu, t'es pas dans les grands gourous du développement personnel ou du sport. Il y en a eu, tu vois, j'ai tous lu hein, moi, les bouquins de Muscu, tu vois, les Delavier, Lafay, Rudy aussi, j'ai lu tous ces bouquins, qui effectivement, t'es, des fois il y a qu'une vision, il y a qu'une façon de faire, et toi par moment t'arrives à détacher de ça et dire voilà, il y a une nuance, et aussi à vous de chercher ce qui vous correspond, quoi.
Avec l'expérience et avec les échanges aussi, tu te rends compte que il y a plus de vérité, parce qu'il n'y a pas un individu et que chacun va réagir différemment. Un élément qui m'a le plus fait réfléchir à ça, et je sais que tu l'as interviewé, c'est Lia Bavoil, qui est championne de multiple recordman du monde en powerlifting. Et la première fois que je l'ai vu squatter, juste en l'ayant squatté, je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Derrière, j'ai eu la chance de passer du temps avec elle, d'échanger et compagnie. Aujourd'hui, elle est recordman en squat, elle est recordman dans sa catégorie, elle est imbattue, elle est pas blessée, ça fait des années qu'elle fait ça. Qui je suis pour lui dire qu'elle devrait ouvrir un peu plus les pieds? Tu vois, et en fait ça fait vachement relativiser, tu vois.
C'est vrai que son squat jambes serrées.
Mais ouais, bien sûr. Et en fait, et aujourd'hui en école de kiné, j'ai appris des protocoles que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Pourtant ces protocoles, ils ont marché. Tu vois, si on les a fait, mais aujourd'hui on en fait d'autres qui marchent peut-être encore mieux. Et quand un article scientifique va te dire le meilleur mouvement pour le mal de dos, c'est celui-là. Il a marché chez 90% de la population. Ouais, mais c'est la personne qui vient de voir au cabinet, il faisait partie des 10%. Tu vois, donc en fait c'est bien d'avoir la science, elle te donne des grandes guidelines, elle t'aide, mais c'est bien aussi de savoir en fait viser en dehors de ce spectre. Un peu comme tout à l'heure, je t'ai dit problème de genou, j'ai trois pathologies qui sont quasiment tout le temps celles-là, mais il y en a quand même 7 autres, et faut pas les oublier ces 7 autres, parce que peut-être que sur une semaine de patients au cabinet ou sur un mois, ce sera 2 patients. Tu vois, donc si tu le dis, t'as un problème de tendon, tu lui fais faire du squat et il va pas mieux. Non, en fait, c'est pas un problème de tendon, c'est peut-être juste une irradiation d'un nerf, ou c'est peut-être un petit kyste, tu vois, c'est peut-être d'autres trucs. Donc il faut toujours garder l'esprit très ouvert.
Ouais, bien sûr. Ouais, et puis le pourcentage de réussite, il te dit juste ce que tu dois tester en premier.
La proba.
Et si ça marche pas, tu passes au reste.
Exactement, ouais.
Okay. Une dernière question avant qu'on arrête. Le métier de kiné, on l'a vu, tu vois, avec les créateurs de contenu. Il a beaucoup évolué. Du coup, une question qui m'intéressait beaucoup, c'est toi, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre encore? Tu t'es énormément formé. comment est-ce que tu vas évoluer dans les prochaines années?
Moi, il y a deux choses qui m'intéressent en ce moment en termes de formation, bien que j'ai un peu moins le temps, comme tu dis, avec les réseaux, le livre, etc. La première, ça va être de me spécialiser encore plus sur la gestion de l'entraînement. Donc, en fait, de partir plus dans la carte de préparateur physique.
Okay.
Et avant le deuxième confinement, je devais faire une formation en prépa physique, mais elle a été annulée à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet de continuer mon accompagnement. Tu vois, au début, je faisais que le côté pathologie, puis maintenant, je les accompagne de plus en plus jusqu'au retour de tour le terrain, mais retour to play, tu vois. Mais au final, derrière, est-ce que je peux pas aller encore plus loin, leur donner plus d'infos, les accompagner encore plus? Donc ça, c'est des connaissances que j'aimerais bien avoir pour continuer à me spécialiser. Et le deuxième point, ce serait la communication.
Ouais.
Pourquoi? Parce que tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de pathologie. Donc en fait, je ne te parle que de la biologie. Tu vois, je te dis ouais, le tendon pour le genou, le disque intervertébral pour le dos. Mais aujourd'hui, on sait qu'un patient, quand il a une douleur, quelle qu'elle soit, c'est jamais qu'un tissu, c'est toujours un ensemble. Ouais. Et le contexte dans lequel il évolue, donc en fait, on appelle ça le modèle biopsychosocial. Tu vois, le bio, c'est l'articulation, le tissu, et il y a le psycho et le social qui sont deux autres catégories à prendre en compte dans notre patient. C'est extrêmement important. Et la manière aussi dont je vais communiquer avec mon patient. Tu vois, on a parlé des fausses croyances, on a parlé d'être capable de se remettre en question. Donc il y a toute une autre sphère qu'on a absolument pas vue en école. Tu vois, tu parlais un peu de PNL, je me suis formé en PNL, etc. Ouais. C'était une première manière de mettre un pied dans ce monde-là,
ouais.
De comprendre mon patient quand il vient me voir, pourquoi il pense qu'il a cette douleur. Et des fois, t'entends un truc de dingue. Oui, c'est parce que ma vertèbre, elle est cassée. Oui, c'est parce que mon tendon, il y a un trou. Enfin, tu vois, t'entends des trucs de fou. Et en fait, si ça, en ta rééducation, tu le prends pas en compte et que tu lui fais que faire des squats. Ouais, mais si lui, il pense toujours qu'il y a un trou dans son tendon et que c'est ça qui fait qu'il a mal, t'as pas fini ton traitement. Et il va peut-être revenir dans 6 mois parce que pour lui, il y a toujours ce trou.
Bien sûr.
Donc tu vois, il y a tout ce contexte et donc là, il faut apprendre à communiquer, il faut apprendre à écouter son patient, à savoir comment il fonctionne et interagir en fait plus avec seulement un genou, mais avec l'individu dans son ensemble. Donc ça, c'est, on va dire, le deuxième gros axe sur lequel j'aimerais me former un peu plus.
Ok, bah hyper. Enfin, je suis tout à fait aligné avec toi et je t'encourage à aller là-dedans parce que c'est vrai que pour être passé par un gros cycle médical là, ces derniers mois, c'est vrai que la façon avec laquelle le personnel de santé communique, c'est vachement important sur effectivement comment est-ce que tu vas vivre ton traitement, comment est-ce que tu es confiant, comment est-ce que tu as confiance au traitement, c'est, tu vois, l'effet placebo, nocebo.
Totalement. Totalement.
J'aurais beaucoup aimé en parler avec toi parce que je sais que c'est des sujets que tu maîtrises pas mal, mais c'est hyper, enfin c'est tout à fait pertinent en tout cas donc, pour les professionnels de santé et j'espère que ça sera intégré de plus en plus dans les cursus. Ça commence.
Moi, parler avec les étudiants, en effet, ils en parlent de plus en plus, même en ostéopathie, tu vois, où je regrettais qu'on en parle pas assez. Moi, j'ai fait mon mémoire du coup d'ostéo sur ce modèle biopsychosocial justement, parce que tu vas voir un ostéo, il te fait craquer ton sacrum, tes cervicales, il te masse le ventre, tu sais pas pourquoi il a mis les mains là, et il te traite le pied alors que t'as mal à l'épaule, et il te dit bon, c'est bon, vous allez avoir mieux. Non, on passe à côté de quelque chose, tu vois. C'est, même si tout ce qu'il a fait, c'était ce dont t'avais besoin, il y a un moment donné, t'es passé à côté de quelque chose dans ton patient. T'as traité un corps, t'as traité un bout de chair, t'as pu traiter l'individu.
Ouais.
Donc c'est extrêmement important. Et le nocebo, il y a plein de thérapeutes qui ont des effets nocebo sans s'en rendre compte. Le pire des nocebo, c'est les radiologues. J'ai un grand respect pour la profession, mais prendre quelqu'un que tu vas avoir pendant 3 minutes, regarder sa radio et vous dire « Oh là là, voilà, clairement, vous avez le dos d'une grand-mère de 80 balais », et après tu le laisses partir et la personne, pendant ce temps, elle voit aucun thérapeute parce qu'elle a pas rendez-vous avec son rhumato avant 3 semaines, c'est une catastrophe en termes de nocebo, tu vois.
Ouais.
Et derrière, elle se renseigne sur Internet, elle voit plein de trucs, elle parle d'infiltration, elle parle d'opération, alors qu'en fait, elle a rien et que c'est normal qu'elle ait un peu d'arthrose à 40 ans, tu vois, donc... En effet, les mots
fatal,
qu'on
quoi.
Utilise, elle est, et depuis que je me suis formé en PNL, moi, je le vois dans mes patients, je le vois dans leur regard, tu vois, je le vois dans leur sourire, dans la fin de la séance, tu vois. Quand je leur demande, est-ce que vous avez des questions en fin de séance, aujourd'hui, ils en ont plus.
Ouais.
Et ils sont contents. Et ma première séance, elle dure 1 heure. Donc ça, c'est un vrai luxe en tant que kiné. Mais le nombre de fois où on me dit, ah, c'est cool, hein, parce que j'ai vu le chirurgien vraiment, avant vous, il m'a expédié, il a répondu à aucune de mes questions. Et là, première séance, t'as 1 heure, tu réponds à leurs questions, tu casses des fausses croyances, tu les rassures, etc. Et il y a plein de cas où, en général, ça devrait aller vite, mais il y a tellement d'incompréhension ou d'oubli de prendre tout ça en compte que les patients, des fois, on les rend chroniques alors qu'ils vont bien.
Ouais. Bah écoute, on aurait pu parler, je pense, pendant des heures des interactions entre le cerveau, les nerfs et les muscles, le corps, pour avoir rencontré tant d'athlètes de haut niveau et en avoir vu certains qui sont revenus d'énormes blessures. Tu vois, j'ai eu la chance d'interviewer Samir Ait Said, tu vois, et quand tu vois ce qui lui est arrivé et revenir, malheureusement à Tokyo, il passe juste à côté.
Ouais.
Et franchement, grosse pensée pour toi, Samir, parce que c'est énorme respect. Mais cette croyance que tu peux revenir, que tu peux y arriver et que tu dois le faire, ça les fait aller beaucoup plus vite.
Le fait qu'ils soient kinés, ça aide aussi, je pense.
C'est vrai. Mais certains ne sont pas kinés. et vrai, il y arrive, tu vois. Je pense aussi à Kevin Roland, qui a failli mourir et qui a aujourd'hui reski et fait des choses dingues, mais il y en a plein d'autres. Écoute, génial, je me suis régalé.
C'est très très cool, merci beaucoup.
J'ai une toute dernière question à la fin que je pose à tous les invités, c'est de me recommander deux personnes, une femme et un homme, pour essayer de respecter au maximum la parité sur le podcast, que je pourrais aller interviewer justement pour parler de crossfit, de préparation physique, de kiné, de création de contenu. S'il y a un très beau lien avec le sport, ça serait encore mieux, mais j'aime bien aller voir les amis des amis et les recommandations de
alors
copains.
En fille, je vais bientôt, donc je l'échange un peu avec elle sur les réseaux, je l'ai jamais rencontrée en vrai, mais je la vois dans 10 jours. Anne-Laure, qui fait du crossfit et qui a fait donc les CrossFit Games, qui est la plus grande compétition au monde de crossfit, en catégorie adaptative. Donc ça on n'a pas parlé, mais dans le crossfit en effet on peut tout à fait le faire avec de handicap, et qui elle est amputée d'un bras. Donc moi je trouve ça toujours, comme on en parlait tout à l'heure, les adaptatives, c'est une force extraordinaire et compagnie. Donc je te donnerai ses coordonnées si tu veux, et moi j'ai hâte d'aller la rencontrer. Et en homme, allez, on va taper en dehors du crossfit, peut-être je sais pas si tu as déjà eu Alex Clerget.
Non.
Médaille olympique de judo, qui est aussi kiné. Donc tu vois, donc ça serait une bonne passerelle, encore un kiné sportif de haut niveau.
Ok, bah écoute, super. En plus, le judo, c'est quand même un sport qui met beaucoup de contraintes, je trouve, sur le corps. Donc, il doit en connaître un rayon, je pense.
Un paquet, en effet.
Bon, bah écoute, trop cool. Merci pour ces recommandations. Elles sont hyper originales, et effectivement, pour Anne-Laure, ce serait grand plaisir de pouvoir l'interviewer, parce que je connais très peu le crossfit justement sous cet angle-là. Donc ça serait avec grand plaisir pour les deux. Merci infiniment.
Merci à toi
pour cette matinée où on s'est régalé.
On va aller manger un bout maintenant.
Ouais, grave. On est un peu faim là. On a été bavards et tout. C'était super chouette. Et puis comme on dit chez moi, bon vent. Et puis y a que les montagnes qui ne se recroisent pas.
Avec plaisir.
Salut, à plus.
Bye.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.